Europe Midi, Simon Rubin.
Midi et demi sur Europe 1, bienvenue à tous et à toutes dans votre journal de la mi-journée.
Rien, strictement rien, ne permet de dire qu'il soit paranoïaque. On sent que c'est quelqu'un qui avait peur.
Il a donc avoué le principal suspect du double meurtre des Cévennes à parler en garde à vue. Un double meurtre sans doute prémédité, dit le procureur de la République. Tout le récit dès le début du journal avec Gladys Laffitte. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui autour du conflit israélo-palestinien, alors que les bombardements et tirs de roquettes s'intensifient. Un pass sanitaire en place dès le mois prochain et des tests PCR gratuits pour attirer les touristes étrangers. Le gouvernement met en place la relance du tourisme pour cet été. Et puis le football, à la fin de ce journal, avant-dernière journée de Ligue 1, Lille croit au titre. On parlera d'ailleurs du foot, de son économie, de son avenir et de ses supposées valeurs avec Pierre Rondeau, économiste. Il est mon invité après cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le principal suspect dans le double meurtre des Cévennes a donc parlé et avoué, annonce du procureur de la République en fin de matinée, Gladys Laffitte. Selon le procureur, le suspect a donc avoué son double meurtre et il ajoute des meurtres a priori prémédités.
Et oui, et plusieurs éléments permettent au procureur de dire ça. Le matin du drame, cet homme de 29 ans est venu au travail avec une arme chargée et peut-être même chambrée, c'est-à-dire prête à tirer. Cette arme était dissimulée sous deux couches de vêtements, une manipulation qui a donc pris du temps pour au moins trois tirs au final sur ces deux victimes et en garde à vue n'exprime aucun regret vis-à-vis de son geste. Ce qui est certain, c'est que ses relations au travail étaient dégradées, notamment à cause de la question du paiement de ses heures supplémentaires. Le colonel Bertrand Michel commande la section de recherche de Nîmes.
L'élément supplémentaire qui a pu venir le mardi matin, c'est toujours d'après ses déclarations, une conversation entre son patron et son collègue sur un possible licenciement pour faute grave qui semblait être envisagé. Ça pourrait expliquer sa réaction en tout cas violente, disproportionnée évidemment et radicale.
Alors on en sait plus aussi sur sa personnalité, pas un survivaliste, a bien expliqué Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes, mais quelqu'un de respectueux du cadre, des règles et qui s'explique largement face aux enquêteurs.
On sent que c'est quelqu'un qui avait peur, qui ressentait de la peur vis-à-vis de certaines personnes du village avec lesquelles il avait pu être en conflit. C'est en tout cas la manière dont lui l'exprime et c'est cette peur de voir ces individus éventuellement s'en prendre à lui et à sa famille, qu'il avait conduit à porter un gilet pare-balles pour se rendre à son travail depuis près de 3 ans.
Gladys, on en sait plus également ce midi sur ce que cet homme a fait durant ces 4 jours de fuite.
Oui, très vite après son acte, il s'est d'abord débarrassé de ses deux armes, l'une cachée dans un châtaignier et l'autre démontée et puis éparpillée. Et ensuite, il est parti se réfugier dans un trou à sanglier à peine 600 mètres de chez lui, un trou qu'il a agrandi à la main, très sommaire donc, et dans lequel il s'est littéralement terré tout ce temps, 83 heures en tout, sans nourriture, mais avec de l'eau puisque sa cache se trouvait à proximité d'un ruisseau.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe. L'armée israélienne a bombardé dans la nuit la maison du chef du Hamas pour la bande de Gaza. Alors on ignore si ce haut dirigeant du mouvement qui contrôle l'enclave palestinienne se trouvait dans le bâtiment au moment du bombardement. Mathieu Bock, à quelques heures de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la violence monte encore d'un cran.
Oui, au moins 17 Palestiniens ont été tués dans un raid israélien ce matin, d'après le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Un peu plus tôt, vous l'avez dit, Tsahal avait annoncé avoir bombardé la maison de Yahya Sinwar, le chef du bureau politique du Hamas, ainsi que celle de son frère, car selon le communiqué de l'armée, elles abritaient d'importantes infrastructures terroristes, mais on ne sait pas si celui qui est considéré comme étant le premier ministre de la bande de Gaza s'y trouvait physiquement au moment de l'explosion. Israël ne relâche donc pas la pression, comme l'avait annoncé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir.
Cela fait 5 jours que le Hamas a effrontément tiré des roquettes dans une attaque totalement injustifiée. La semaine dernière, des millions d'Israéliens ont été contraints de se réfugier dans des abris anti-bombardement alors que les missiles pleuvaient sur nos villes. Plusieurs Israéliens ont été tués, beaucoup d'autres ont été blessés. Israël ne tolérera pas cela. Israël continuera à répondre avec force jusqu'à ce que la sécurité de notre peuple soit rétablie. Nous avons éliminé des dizaines de terroristes du Hamas et détruit des centaines de sites terroristes.
Israël qui affirme que 120 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza hier soir, mais que la majorité ont été interceptées par le bouclier antimissile. Pour le moment, aucune victime n'a été recensée côté israélien après cette offensive du Hamas.
Mathieu Bock et l'armée israélienne qui à l'instant tient le compte des roquettes tirées depuis Gaza vers Israël depuis lundi. 3000 roquettes tirées et cet autre chiffre en France suite à la manifestation pro-palestinienne qui était pourtant interdite hier à Paris. 45 personnes ont été placées en garde à vue. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit quant à lui aujourd'hui pour discuter de cette reprise du conflit. Depuis lundi, on dénombre 174 personnes tuées, dont beaucoup d'enfants et une large majorité de Palestiniens. La réunion de l'ONU, elle débute à 16h. Jusqu'à présent, les Nations Unies ne sont pas parvenues à s'accorder, Alexis Guilleux, la faute à Washington qui bloque toute déclaration commune depuis une semaine.
Oui, les États-Unis ont fait valoir leur droit de veto lors des deux premières réunions qui se sont tenues lundi et mercredi. Il n'y a donc pas eu d'appel commun à l'arrêt des hostilités. Washington, sous pression internationale, a finalement accepté d'avancer cette nouvelle réunion qui devait au départ se tenir mardi. D'après les mots du secrétaire d'État américain, les États-Unis souhaitent donner du temps à la diplomatie après l'envoi de leur émissaire au Proche-Orient. En tout cas, cette crise s'est invitée dans l'agenda de Joe Biden pour la première fois depuis son investiture. Il s'est entretenu hier par téléphone avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a réitéré son engagement en faveur d'une solution à deux États pour régler le conflit régional et a affirmé que le Hamas devait cesser ses tirs de roquettes. Joe Biden, qui a également parlé à nouveau avec Benjamin Netanyahou, il a fait part de sa grande inquiétude pour la sécurité des journalistes, tout en soutenant le droit d'Israël à se défendre contre les attaques. Une position très critiquée à gauche du Parti démocrate, le sénateur Bernie Sanders, rival de Joe Biden l'an dernier, a signé ce week-end une tribune dans le New York Times appelant les États-Unis à cesser d'excuser le gouvernement Netanyahou.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 du côté de New York, et puis les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiendront, eux, mardi, une visioconférence d'urgence sur l'escalade de ces combats entre Israël et Palestine. Marine Le Pen aurait bel et bien été organisatrice et bénéficiaire du système d'emploi fictif d'assistant d'eurodéputé RN. C'est ce qu'explique le journal du dimanche, le journal qui révèle les conclusions d'un rapport des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption. Louis Dragnel, les documents que le JDD a pu consulter sont éloquents. Marine Le Pen est désignée comme la responsable directe de tout ce système frauduleux.
Oui, car le rapport parle d'un système centralisé dont Marine Le Pen serait l'organisatrice et la bénéficiaire. Marine Le Pen est soupçonnée d'avoir détourné des moyens du Parlement européen, des moyens normalement destinés aux parlementaires pour recruter et rémunérer des collaborateurs pour leur travail à Bruxelles. Sauf que ce rapport fait état d'un système qui aurait permis en réalité de rémunérer avec les crédits de Bruxelles des collaborateurs pour le parti, ce qui est interdit par la loi. Les enquêteurs évoquent 17 personnes membres du RN qui pourraient être mises en cause pour un montant total estimé de 6,8 millions d'euros. Marine Le Pen, présumée innocente à ce stade, a réagi dans un tweet « Rien de neuf sous le soleil, sauf les bons sondages en vue ».
Et puis Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, était lui l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos et il déclare « Le RN au Parlement européen, c'est un peu « prends l'oseille et tire-toi ». On parle de 6 millions d'euros. C'est en partie l'argent des Français.
Europe Midi, Simon Rubin.
Allez, on marque une pause, midi 38, dans ce journal, et puis on revient, on va se préparer pour l'été, les vacances, on va vous parler passe sanitaire et tests gratuits pour les touristes étrangers. À tout de suite.
Simon Rubin vous informe sur Europe 1.
12h40, le pass sanitaire sera utilisé en France à partir du 9 juin pour accéder au rassemblement de plus de 1000 personnes, annonce de Clément Beaune, secrétaire d'État chargé aux affaires européennes dans le grand rendez-vous. Un pass qui, à partir de la fin juin, permettra également de circuler dans l'Union européenne. Et puis, autre annonce, mise en place de tests PCR gratuits cet été pour les touristes étrangers venant en France.
Le Parlement européen, pour être précis, dans cette discussion qui est en cours sur le pass sanitaire, demande que les tests deviennent gratuits partout en Europe. On ne peut que le soutenir puisque nous le faisons. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui font toutes payer les tests, l'accepteront et le feront dans les semaines qui viennent.
Encore les touristes étrangers qui viendront en France pourront faire un test PCR gratuit quand ils repartiront chez eux.
Oui, d'abord c'est un élément aussi effectivement d'attractivité, mais touristique, parce qu'on a besoin, on a envie, dans des bonnes conditions sanitaires, de rester la première destination touristique européenne et mondiale. C'est un enjeu économique pour nous, mais ça montre bien l'effort que nous faisons.
Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Ces annonces, la perspective également d'une réouverture sur le fond d'un pont de l'Ascension particulièrement réussi. Il y a eu 12 millions de Français qui se sont offerts une escapade. Voilà tout ce cocktail qui nous permet peut-être de voir l'avenir avec un peu de sourire. Jean-Pierre Masse est président de l'Organisation professionnelle des entreprises de voyage.
Et depuis une quinzaine de jours, les Français ont manifesté très clairement leur intention de partir en voyage, de sortir de 14 mois consécutifs de crise. Ils réservaient des vacances en France, bien évidemment, au bord du littoral, dans les campagnes, en montagne, mais également en Europe et en Europe du Sud, sur les lieux traditionnels des vacances d'été, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie. Cette année, il n'y en a que 14% qui disent vouloir passer leurs vacances à l'étranger. Le conseil à leur donner, c'est d'abord d'utiliser le pass sanitaire dans l'application Tous Anti-Covid, qui va permettre d'intégrer à la fois ces vaccins et ces tests et de savoir si l'on répond aux exigences du pays que l'on veut visiter. En Grèce, c'est soit un test, soit un vaccin. Vous n'avez pas besoin de cumuler les deux. Donc, Tous Anti-Covid permettra, si vous êtes vacciné, vous pouvez voyager en Grèce.
Propos recueillis par Romain Houg et l'Organisation professionnelle des entreprises de voyage qui annonce que 70% des Français se disent prêts à dépenser autant, voire plus, qu'en 2019. C'est un plaisir simple et qu'on aurait presque oublié. Après 7 mois de fermeture, les cinémas sont sur le pont pour préparer la réouverture. Ménage, entretien du matériel, préparation des films, comme au Max Linder Panorama, où les équipes se sont pressées du côté de Paris pour retrouver leurs spectateurs. Le reportage d'Alexandra Sirgan.
Le projecteur en route, le générique du cinéma en plein écran. Dans sa cabine, José, le chef opérateur, teste son matériel de projection, très ému à l'idée d'enfin retrouver son public.
Le cinéma, il ne vit pas sans son public. C'est un plat sans sauce. Voilà, c'est un peu fade.
Et pour donner goût aux cinéphiles, un seul film à l'affiche de ce cinéma à un écran, Mandibule de l'excentrique Quentin Dupieux.
Il y a quoi dans la valise ?
Ça, c'est pas ton problème. Toi, t'oublies, t'y penses même pas à ça.
D'accord.
Attends, tu me dis d'accord, là, j'ai l'impression que tu comprends rien.
La gérante du cinéma, Claudine Cornia, est confiante pour cette réouverture.
On a déjà des messages, enfin, formidable, on sera là. Dès notre première séance, le mercredi soir à 19h, notre séance est complète. Je vais voir les gens, parce que là, je ne vois que des fantômes quand je suis dans cette salle. Je vais voir les gens et je vais les sentir, je vais les entendre.
Les fauteuils noirs en mousse de la salle pourront accueillir 200 personnes sur les 560 sièges. La jauge pourra grimper à près de 360 à partir du 9 juin.
Et le clap de fin, reportage signé Alexandra Sirgan. Avant de clore ce journal, on passe au sport. Avec d'abord du football. Hier, c'était la fin du championnat de Ligue 2. Clermont accompagnera bien 3 en Ligue 1 la saison prochaine. Les Clermontois qui ont célébré toute la nuit leur première accession à l'élite. Et puis après la Ligue 2, place à la Ligue 1 ce soir. Grand multiplex à suivre dans Europe 1 Sport. Prise d'antenne dès 20h. Et on aura évidemment une attention particulière du côté de Lille. Lille qui reçoit Saint-Etienne et qui pourrait être sacré champion. Au nez et à la barbe des Parisiens, le LOSC qui pourra compter sur sa star en attaque, le vétéran turc Burak Yılmaz, 35 ans, une idole du Nord et de la Turquie. Lionel Gougelot.
Expatrié après 18 ans de carrière en Turquie et un palmarès long comme le bras avec les plus grands clubs du pays, celui que l'on surnomme le Kral, le roi Burak, reste le chouchou des médias Burak turcs Yılmaz, qui suivent à distance Burak, ses exploits en Ligue 1. Avec deux de ses compatriotes, partenaires de sélection nationale, Yazice et Selik, Yılmaz s'est imposé en véritable patron à Lille. Intégration facilitée aussi par le soutien de la communauté turque de la région et de son président qui d'ailleurs officie régulièrement comme traducteur pour les journalistes. Sur le terrain, les compteurs s'affolent. 6 buts inscrits sur les 5 derniers matchs avec Lille. Et forcément, Christophe Galtier, l'entraîneur, compte sur lui pour emmener l'équipe jusqu'au titre.
Le fait qu'il soit revenu en forme sur cette fin de championnat, évidemment que c'est un atout important. Puis après, voilà, c'est un leader, il est froid dans la préparation du match, mais il est aussi bouillant sur le terrain. Et mes joueurs ont besoin aussi de cela, d'avoir beaucoup de détermination pour faire en sorte de vivre une saison exceptionnelle.
Yılmaz, artisan majeur d'un possible 4e titre lillois, il lui reste 2 matchs pour imprimer sa marque dans l'histoire du club. Et nul doute que l'événement serait aussi célébré comme il se doit sur les rives du Bosphore. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis un peu plus loin de Lille, du côté de l'Espagne, la presse espagnole annonce que l'entraîneur Zinedine Zidane pourrait quitter son club, le Real Madrid, à la fin de la saison, alors que le Real est encore en ce moment même à la lutte pour remporter la Liga. Et puis cet après-midi, il y a de la moto, Grand Prix de France moto, cinquième manche du championnat du monde, départ 14h, ce sera d'ailleurs sur C8 en clair, et beaucoup d'attentes autour de deux hommes, deux Français, Fabio Quartararo et Johan Zarco, qui partent respectivement en pole position et en cinquième position sur la grille. On passe à la météo, Valérie Darmon, et du gris à couper au couteau encore aujourd'hui, Valérie.
Effectivement, c'est vrai, de la Bretagne au Grand Est et des côtes de la Manche en passant par le centre et le bassin parisien, le ciel est toujours très changeant, parfois menaçant et à d'autres moments plus lumineux, donc un petit peu moins gris, voire de temps en temps avec des pointes de bleu. Mais le risque d'averses parfois orageuses reste très présent, voire de plus en plus d'ailleurs au fil de l'après-midi. Le ciel se bouge sur un bon tiers nord, s'assombrissant très très sérieusement sur les Alpes, où la neige tombe toujours au-delà de 2400 mètres. Le ciel qui est plus dégagé, plus sec entre Charente et estuaire de la Gironde, à cause du vent sensible, même assez fort, avec des rafales à 80 km/h près des côtes et 60 dans les terres. Du sud Aquitain au Jura, en passant par le massif central, le temps est tout aussi maussade, avec pas mal de pluie, la couverture nuageuse qui va rester très épaisse, un petit peu moins sur les plages, les températures qui ne remontent pas et qui oscillent entre 15 à Caen et 25 à Nice au cœur de notre après-midi, 18 annoncés à Paris et 19 degrés à Lyon.
Merci Valérie Darmon.
Europe Midi, Simon Rubin.
C'est la fin de ce journal, midi 47, mais restez avec nous, on marque une pause et puis dans un instant on va parler football. Le foot, vous savez, c'est ce sport dont tout le monde parle, mais que presque personne ne regarde plus. J'exagère à peine, mais on va creuser ce paradoxe avec Pierre Rondeau, économiste du sport.
Europe Midi, Simon Rubin.
Midi 49, l'heure de retrouver mon invité. On va parler foot, mais pas forcément uniquement du sport en tant que tel, plutôt de son économie, de la place qu'il a dans la société. Et il y en a des choses à dire. Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour.
Vous êtes économiste du sport, professeur également, co-directeur de l'Observatoire du sport. Alors, c'est bientôt la fin de la saison de Ligue 1, 37e journée ce soir. Et on ignore comment on pourra regarder le championnat l'an prochain. Personne ne sait vraiment qui va diffuser les matchs. C'est à peine croyable quand on sait que l'économie du foot est quand même basée sur les diffuseurs télé.
À 36% en moyenne, si je retire le trading de joueurs, enfin pardon, si j'intègre le trading de joueurs, 36% en moyenne des budgets sont dépendants des droits TV. Et c'est vrai qu'initialement, alors à l'époque où on avait Média Pro Téléfoot, le deal, le contrat droits TV avait été négocié entre la LFP et le diffuseur jusqu'en 2024. On le sait tous, Mediapro a fait faillite en France, la chaîne Téléfoot a disparu, et on a signé un contrat de gré à gré, donc de main à main directement avec Canal+, pour la fin de saison. Et on s'attendait, on espérait, en tout cas je mets à la place des clubs et des dirigeants, à ce que Canal+, ou d'autres en tout cas, prolongent ce deal, ce contrat.
Ce qui était le cas en Angleterre d'ailleurs.
Ce qui était le cas en Angleterre, c'était prolongé de 3 ans, juste pour 2021, 2022, 2023 et 2024. Sauf que non. Alors moi qui avais eu au téléphone certains dirigeants, on me disait que au mois d'avril, on espérait pouvoir retomber sur un deal Canal+, Bein Sport et revenir à ce qu'on avait eu en 2016, autrement dit entre 700 et 800 millions d'euros. Beaucoup de dirigeants espéraient maintenir cette somme de 800 millions d'euros qui aurait pu permis de voir venir les choses. Et en avril, on n'a rien eu. Et on est en mai. On est à la 37e journée et pour l'instant, il n'y a aucun deal, aucun contrat, aucune signature pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, avec un diffuseur ou avec des diffuseurs. C'est la panique à bord.
Il y a un risque que, j'allais dire, presque personne ne diffuse cette Ligue 1 ?
Non, ça m'étonnerait que ça arrive parce que le football reste trop important. Le seul risque, c'est que justement, face à la pression qui est mise sur la tête des dirigeants, bah, on soit prêt à signer des contrats au rabais à 300, 400 millions d'euros. Encore une fois, ça fait partie du jeu et de la négociation. Je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt des diffuseurs et notamment de Canal+, de trop rabaisser la valorisation et la valeur de la Ligue 1 française. Canal+, ou d'autres, Bein Sport, RMC Sport, peut-être DAZN, peut-être Amazon, ont aussi besoin d'avoir une Ligue 1 attractive et compétitive pour attirer des abonnés. Si demain on fait comme les championnats hollandais, les championnats russes, les championnats portugais, les championnats danois, belges, à moins de 150 millions d'euros, à moins de 200 millions d'euros, oui, ça va être gagnant pour Canal+, pour les consommateurs qui ne paieront que 10 euros ou 15 euros par mois de foot français, mais les clubs n'auront plus d'argent pour négocier des contrats, faire signer des joueurs, et ils seront moins compétitifs. Donc il y a toute une... C'est un jeu de dupes, c'est un poker menteur, c'est limite, on pourrait l'appliquer sous forme de théorie des jeux, où on a à la fois l'intérêt d'avoir une Ligue 1 performante, compétitive, donc valorisée, mais aussi l'intérêt pour le diffuseur d'avoir une Ligue 1 peu chère pour générer la lucrativité. Parce que, disons les choses très clairement, la Ligue 1 à 1 milliard, ce qu'on a vu avec Téléfoot Media Pro, n'a jamais assuré de rentabilité. Ça, c'est clair et net, on ne pourra plus jamais revenir à 1 milliard. Même s'il y a Amazon, même s'il y a Facebook, même s'il y a un GAFA, une Ligue 1 à 1 milliard, c'est pas rentable. Parce qu'on a trop d'abonnés qui vont sur le... Enfin, on a trop de fans qui vont sur le streaming, sur l'IPTV, on n'a pas suffisamment de personnes prêtes à payer 20, 30, 40 euros par mois pour rentabiliser l'investissement. Donc, il faudra accepter de revoir le modèle du football et de revenir à un modèle, je dirais, plus humain, si je puis dire. En tout cas, moins dépensier, avec des droits TV valorisés à 500, 600, 700 millions d'euros. Mais le meilleur, c'est terminé.
On a vu que depuis quelques semaines, la Formule 1 sur Canal+ faisait des audiences à peu près équivalentes, voire supérieures au football. Certains parlent d'un désintérêt. On a nous-mêmes, sur Europe 1, réalisé des enquêtes sur le fait que les jeunes s'intéressaient un peu moins au football, en tout cas pas de la même manière. Est-ce que c'est parce que c'est trop cher? Est-ce parce que les gens ne s'intéressent plus à ce sport?
C'est très intéressant de faire le comparatif avec la Formule 1 et ce qui a été fait justement par les anciens investisseurs, les anciens propriétaires de la F1, CVC Partners et les nouveaux Liberty Media, qui ont pendant un temps fait le choix de repartir à la reconquête, de se remettre totalement en question, de produire un documentaire avec Netflix en précisant, chose importante, que le documentaire, ça a été, on a ouvert les portes. Ouais. C'est pas une coproduction F1 Netflix et on ferme les portes et on filme uniquement ce qu'on a envie de vous montrer. C'est vous ouvrez, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Et vous vendez du rêve aux téléspectateurs qui découvrent l'univers de la F1. Le nouvel actionnaire de la Formule 1, Liberty Media, a imposé, chose très intelligente, a imposé à ce que 4 grands prix par an soient diffusés en clair. Quelle que soit la chaîne, payante ou gratuite, en l'occurrence en France Canal+, 4 grands prix par an sur 17 sont obligatoirement diffusés en clair. Résultat, les gens s'intéressent via Netflix, via la médiatisation de la Formule 1, mais aussi y ont accès. Oui. On dit les jeunes ne s'intéressent plus au football, mais où sont les matchs en clair? Où sont les matchs en clair sur lesquels les jeunes pourraient s'intéresser? Une demi-finale de Coupe de France, Montpellier-PSG, de Coupe de France, compétition organisée par la FFF, qui a un mandat de service public, était diffusée sur une chaîne payante, Eurosport 2. Où sont les matchs en clair? Pour donner un intérêt aux jeunes, et au-delà des jeunes, à un public, au public de footeux, il faut qu'ils y aient accès. Il faut repartir à la reconquête. Il faut reconquérir un marché qui est en perdition depuis quelques années, parce qu'on a privatisé le football, parce qu'on est à RMC Sport, Bein Sport, Canal+, peut-être demain DAZN, Eurosport, Mediapro Téléfoot qui a fait faillite, qui a floppé. Donc, si on veut de nouveau ce que les gens s'intéressent au football, parce que quand on voit les affiches en clair de l'équipe de France ou des demi-finales de Ligue des Champions avec Lyon, ça fait 5 millions, 10 millions d'audience. Donc, des gens s'intéressent au football. Simplement, aujourd'hui, ça coûte cher. 75 euros le pack sport. Donc, ils vont sur du streaming et de l'IPTV.
À quoi pourrait ressembler le foot de demain? On a l'impression qu'il y a deux chemins. Le premier, c'est le côté très Super League, avec encore des droits, avec des mégastars. Et puis, un autre qui serait un foot, vous le disiez tout à l'heure, plus humain.
On peut avoir les deux. On peut parfaitement avoir les deux. On peut parfaitement avoir une scission du football entre un football hors sol, mondialisé et international, avec une Super League européenne, mais qui pourrait être délocalisée sur le territoire américain, en Chine, en Inde ou ailleurs. Avec des salaires qui resteraient mirobolants et très importants pour les grandes stars. Et de l'autre côté, des matchs diffusés en clair sur France Télévisions, la chaîne L'Équipe, M6, TF1, avec des droits TV valorisés à 100, 200, 300 millions d'euros, des petits salaires de 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, contre aujourd'hui 96 000 euros de moyenne en Ligue 1 française. Donc un football de second rang, si on peut dire, ouais, plus humain, mais qui pourrait totalement et parfaitement exister. En 2030, ou même avant 2025, on peut parfaitement imaginer avoir un football à 2 vitesses. Regardez la boxe a plusieurs fédérations, ça peut parfaitement exister dans le football. D'ailleurs, il y a actuellement une question qui est posée auprès de la Cour européenne de justice sur la question du monopole de l'UEFA dans l'organisation des compétitions sportives. Si demain la Cour européenne de justice acte le droit à la concurrence dans l'organisation des compétitions sportives, ça fera jurisprudence et on pourra avoir une Super League à côté d'une Ligue des Champions, à côté d'une Ligue 1 française diffusée en clair sur France Télévisions, et avoir un football à 2 vitesses.
Et si on veut creuser ce sujet, eh bien il y a l'un de vos livres, Pierre Rondeau, Le foot va-t-il exploser, coécrit avec Richard Bouygues aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Midi 57 sur Europe 1. Et vous reconnaissez cette musique. Avant de marquer une pause et des infos de 13h, les carnets du monde. Bonjour Sophie Quadbo, aujourd'hui avec vous et vos correspondants.
Bonjour Simon, on a préparé un petit dossier spécial livreur, puisqu'en ces temps de pandémie, on en voit partout. Donc on évoquera les armées de coursiers en Chine, tout se livre en Chine. On découvrira les Dabawala à Bombay en Inde, c'est une organisation historique et incontournable dans cette grande ville, un peu comme les bouquinistes à Paris, voyez. Et puis à Cuba, il existe des sortes de livreurs non officiels, mais indispensables car ils trouvent ce qu'il n'y a pas en magasin.
Voilà pour le programme, merci Sophie et à tout de suite.